L'endroit précis où nous sommes ici, c'est le cours supérieur de la vallée de la Géhenne, qui continue par là pour rejoindre le Cédron. Et dans la Bible, ce cours supérieur de la Géhenne s'appelle Emek Abaha. Comment traduire ça? C'est devenu la vallée des larmes, dans le Salve Regina, Inac Lacrimarum Valle. En fait, ça veut dire la vallée. Baha, c'est un arbre, un micocoulier ou un baumier. Je crois que c'est un micocoulier. C'est le val du micocoulier. Où est-ce qu'on en parle dans la Bible, là?
Et David, la cantine.
Ça nous évoque l'histoire de David. David est poursuivi par la haine pathologique de Saül. Vous vous rappelez, les femmes chantent dans la rue, Saül c'est pas mal, mais David. Alors Saül en est jaloux à crever, et David est forcé de s'enfuir, et il va chercher refuge jusque chez les Philistins, malgré l'histoire de Goliath. Alors c'est chez les Philistins qu'il apprend la mort de Saül, et il commence alors une montée politique foudroyante. Il règne d'abord sur la tribu de Juda, ensuite toutes les tribus viennent faire leur soumission à David à Hébron, et puis quand David règne sur l'ensemble des tribus, son premier geste est de conquérir Jérusalem, qui était restée une enclave, continuait à appartenir aux Cananéens, aux Jébuséens. Alors à ce moment-là, les Philistins commencent à s'inquiéter. Qu'est-ce que c'est que ce gars-là qui grimpe si rapidement? Et ils montent contre David deux expéditions. Alors les Philistins, à cette époque-là, ils arrivaient du côté de la gare actuelle, on verrait la vallée des Rephaïm. Alors vous savez que David était en relation directe avec Dieu par téléphone rouge, même sans fil, un peu comme on fait maintenant. Et alors il demande conseil à Dieu qui lui dit « Vas-y, enfonce les Philistins ». Alors il enfonce les Philistins là-bas, du côté de la gare, dans la vallée des Rephaïm. Alors les Philistins se retapent, se refont, et puis de nouveau montent une expédition par la vallée des Rephaïm sur Jérusalem. Alors David demande conseil à Dieu qui lui dit « Cette fois-ci, alors mets-toi en embuscade ». Précisément dans les environs, dans la vallée du Micocoulier où nous sommes maintenant. Et alors David leur coupe la route, de telle sorte qu'ils ne peuvent pas repartir chez eux par la vallée des Rephaïm. Ils sont obligés de faire tout un tour par le nord pour descendre là-bas du côté par la vallée d'Ayalon et par Gezer. Et Dieu lui dit, quand tu entendras les pas là, dans la cime du Micocoulier, alors vas-y. Et ça fait penser aux pas de Dieu qui se promène dans le jardin. Je dis ça parce que oui, c'est ici que les gens campent, hein, c'est pas très confortable. Alors quand ils ne dorment pas, je leur demande, est-ce que vous n'avez pas entendu les pas comme Dieu qui se promène dans le jardin à la brise du soir? Mais il y a un autre endroit beaucoup plus important. Vous voyez, encore une fois, on part d'événements très banals. Mais alors, comme l'échelle de Jacob, une fois qu'elle est bien portée en terre, elle s'élève très haut. Et les anges montent et descendent à la barbe de tous les spécialistes là, qui maintenant arrêtent quand les récits bibliques, la signification au niveau eux-mêmes sont parvenus. Au contraire, on voudrait une intelligence là, qui, avec une liberté totale, s'enfonce jusqu'à la géologie de ce pays pour rebondir jusqu'à la liturgie. Alors justement, où est-ce qu'on évoque encore la vallée des Micocouliers? Le psaume, je ne me rappelle plus le numéro, c'est pas grave.
83.
Le psaume 83. Qu'il passe au val du Baumier ou du Micocoulier. La pluie d'automne les enveloppe. Vous savez que dans ce pays, la pluie commence à la fête de Soukhot. Et c'est une bénédiction ici. Alors, ils marchent de hauteur en hauteur. Dieu leur apparaît dans Sion. Ou plutôt, ils comparaissent devant Dieu en Sion. Alors, la petite note de la Bible de Jérusalem, le val du Baumier ou val du Micocoulier, au nord de la vallée de Hinnom, c'est comme ça qu'on appelle la Géhenne, vers l'actuelle porte de Jaffa, était la dernière étape des pèlerins. Est-ce qu'on pourrait trouver un meilleur endroit pour prendre le point de départ de notre pèlerinage que cet endroit-ci, qui est la dernière étape des pèlerinages de Pâques, de la Pentecôte et de Soukhot, sous le patronage de laquelle on voudrait mettre la Bible sur le terrain? Alors, je vous lis ce psaume en le commentant un petit peu. Que tes demeures sont désirables, Seigneur Sabaoth. Ici, le mot désirable, c'est tout le dynamisme affectif là, de l'homme le plus puissant. Mon âme soupire et languit auprès des parvis de Dieu. Mon cœur et ma chair crient de joie vers le Dieu vivant. Ben, mon âme, très bien, mais pas seulement du mystico-gazeux. Tout mon être, ben, toutes mes tripes, tous mes os. Il y a des psaumes qui disent que tous mes os se mettent de la partie quand il s'agit de chanter ta louange, que toutes mes tripes, même tout. Vous ne savez pas l'hébreu, c'est un peu dommage, c'est pas normal. Ben, ici, les gosses, c'est leur livre de classe. Et dans les écoles, il y a au moins 4 heures par semaine de Bible en hébreu. Alors, heureux les habitants de ta maison. Quand on dit heureux dans la Bible, ce n'est pas un mot creux, hein, c'est un pluriel de plénitude. C'est comme ça que Jésus commence cette charte-là du christianisme, que son discours sur la montagne, les béatitudes. Le premier des psaumes commence par heureux, le plus long des psaumes commence par heureux. Alors, heureux les habitants de ta maison qui ont la chance d'habiter au lieu que tu as choisi pour y faire habiter ton nom, le temple. Ils te louent sans cesse. Mais alors, heureux aussi, par participation, si vous voulez, les hommes dont la force est en toi, qui gardent au cœur les montées vers Jérusalem. Ceux qui se mettent en route, ils se rassemblent ici pour la dernière étape. La pluie d'automne les enveloppe, une petite pluie qui arrive comme ça en avance et qui les rafraîchit. Ils marchent de hauteur en hauteur, en fait on descend. Mais le mot Mechaïl El Chaïl en hébreu, c'est peut-être de muraille en muraille ou de vertu en vertu. Vous voyez, les rabbins, c'est pas du tout comme les professeurs qui disent c'est ça, donc c'est pas ça, donc c'est ça. Souvent même, ils emploient des mots qui ont toute une aura de signification. Alors Dieu leur apparaît dans Sion, ça c'est pas comme ça que tradition juive comprend les choses. Voir Dieu, ils disent être vu de Dieu. Ils ont corrigé, c'est très curieux, ils ont mis le passif et ils ont laissé le complément direct. Matei avov erae pne Elohim. Quand irai-je et serai-je vu la face de Dieu? Ici, c'est le pèlerin qui comparaît devant Dieu. Et c'est tellement bouleversant que c'est comme si déjà il voyait Dieu. Alors je passe, mieux vaut un jour en tes parvis que mille à faire n'importe quoi, rester ne fût-ce qu'au seuil de la maison de mon Dieu qu'habiter la tente de l'impie, des vacances au vrai sens du mot. Dieu ne frustre pas du bonheur ceux qui marchent en parfait, heureux qui se fient en toi. Alors voilà, c'est une magnifique prière. Et alors voyez-vous, ce langage là, c'est le langage des pèlerinages. Qu'est-ce qu'on vient faire à Jérusalem? Trois fois par an, à Pâques, à la Pentecôte et à la fête de Soukhot, on vient faire cette expérience bouleversante de la rencontre, voir celui qui nous voit. Et dans la tradition juive, on appelle ce pèlerinage la Re'eya. Ça veut dire du mot Ra, qui veut dire voir. Et il ne se passera pas de jour, au fur et à mesure que l'expérience qu'on va faire se déroulera, où n'apparaisse pas ce thème, pas de voir celui qui nous voit. Alors ce que je voudrais, c'est que les pèlerins chrétiens qui viennent ici, au lieu de se contenter de voir les lieux saints au pluriel, mettent leurs pas dans la foulée de ces grands pèlerinages bibliques qui venaient faire cette expérience bouleversante de la rencontre qui prélude au terme de l'aventure humaine. Parce que nous qui sommes faits à l'image de Dieu, nous sommes faits pour être en voyage vers Dieu. Le plus grand danger pour un être humain, c'est de s'installer, de renoncer à l'aventure du bonheur. Et ceux qui se ressemblent s'assemblent à l'image de Dieu, on est en voyage vers Dieu. Alors on se met en pèlerinage et on vient faire à Jérusalem une expérience qui anticipe sur celle que nous ferons lorsque, au terme de notre existence, nous verrons Dieu comme il nous voit présentement. Et cette connaissance est transformante. Déjà celle qui nous arrive imparfaitement par l'oreille, ben, si on met en pratique ce qu'on a compris de la parole de Dieu, ça nous rajeunit déjà un petit peu à l'image de l'éternelle jeunesse de Dieu. Mais quand cette connaissance imparfaite qu'on a par les oreilles fera place à la connaissance parfaite qu'on aura par la vision, alors le pouvoir transformant de la connaissance s'exercera au maximum et nous serons, les pères de l'Église, n'hésitez pas à dire, divinisés. Et sommeta obsometa, c'est tout à fait dans l'épître de Saint Jean. Et ici, nous faisons une première fois l'expérience de ce que c'est que la mémoire biblique. Vous avez des événements qui sont médités dans une tradition multiséculaire. Et alors la signification se dégage de par la méditation amoureuse que le peuple fait de son passé, de son vécu. Et alors la signification devient tellement riche qu'elle fait comme éclater les frontières du temps et de l'espace. Et alors ce qu'on a compris se projette et vers le début de l'histoire et vers l'oméga de l'histoire, vers la fin de l'histoire. Alors ce que je voudrais, moi, c'est qu'on s'intéresse bien sûr au lieu saint, mais aussi à Jérusalem comme lieu saint au singulier. Et qu'on se mette en route ici, reprenant l'expérience biblique, la reprenant aux origines de notre condition humaine d'homme fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, et qu'on la prolonge pour faire une anticipation de cette expérience que le Christ nous appelle à faire par sa mort et par sa résurrection. Mais alors on ne peut faire cette expérience à Jérusalem que si on a parcouru tout le pays. C'est ce qu'on va faire et vous allez voir que partout où on va rebondir sur Jérusalem. Et que tout ce qu'on va ramasser de connaissances en parcourant le pays du sud au nord va se retrouver comme aspiré à Jérusalem pour y prendre une signification plénière qui va se projeter à travers le temps et l'espace. Et ensuite, c'est ça le but de l'expérience, on part de Jérusalem sans pouvoir la quitter. On marche vers la cité de Dieu dont Dieu est l'architecte et le fondateur. Vous n'avez pas de questions à poser là-dessus là.
C'est dans le psaume, là, Dieu leur apparaîtra dans le Sion.
Oui.
Tu peux repréciser dans la
Yerae el Elohim betzion. Yerae. Alors ce mot Ra'a, ça fait partie du langage de Jérusalem. Tous les Israélites sont appelés à comparaître devant Dieu trois fois par an. Yerae, kol zoruracha. Le Lévite exilé, que nous rejoindrons du côté du Golan, il crie sa nostalgie de Jérusalem et il dit « Mata yavove erae pne Elohim ». Quand irai-je et serai-je vu la face de Dieu? On n'ose pas dire voir Dieu. Alors ici, il marche de hauteur en hauteur et puis il voit Dieu, non, pas le pèlerin comparaît devant Dieu. Mais cette comparution est tellement bouleversante que c'est comme si c'était déjà le prélude de la vision de Dieu que Job l'évoque. Moi, de ma chair, je le verrai. Cette certitude qui est la nôtre. Et dans la tradition juive, c'est la reïa. Alors puissions-nous nous mettre dans la foulée de ces pèlerinages bibliques, le reprendre aux origines et puis que ça se projette jusqu'à la fin des temps. Et qu'on trouve dans ces pèlerinages un élan. Et les gens qui viennent faire la BST, ce que je voudrais, c'est qu'ensuite, dans les conditions qu'on appelle normales de la vie ordinaire, eh bien, ils continuent à déchiffrer leur existence à partir de cette expérience intense. Il y a Job qui a dit ça avec des paroles d'une force extraordinaire. Je voudrais qu'on écrive mes paroles, qu'elles soient gravées en une inscription avec le ciseau de fer et le stylet, sculptées dans le roc pour toujours. Je sais, moi, de certitude, que mon défenseur est vivant, que lui, le dernier, se lèvera sur la poussière. Après mon éveil, il me dressera près de lui, et de ma chair, je verrai Dieu. Celui que je verrai sera pour moi, celui que mes yeux regarderont ne sera pas un étranger.
Colline de l'ONU.
Oui, colline de l'ONU. En réalité, ce sont les Anglais qui ont entendu mandat britannique. Là, on choisit cet endroit. Il n'y a pas de lieu plus riche de beauté signifiante dans le monde entier que quand on a une culture biblique, que Jérusalem vue d'ici. Et les observateurs de l'ONU, là, s'il y a toujours un rapport entre la vocation naturelle et puis les appels surnaturels, ils pourraient devenir ici des contemplatifs. Les observateurs deviennent des contemplatifs et ils contempleraient pas seulement le nombril, mais le nombril du monde. Certains pensent que dans le Cantique des Cantiques, la description de l'anatomie de la bien-aimée, c'est la Terre Sainte, prise des pieds à la tête, du sud au nord, et le nombril, c'est Jérusalem. Jérusalem que des collines entourent. Alors c'est toujours ici qu'on commence la BST. On contemple Jérusalem, ce nombril du monde, et simplement, on reviendra à la fin, quand on aura parcouru tout le pays, depuis la mer Rouge jusqu'à l'Hermon, on reviendra ici, et puis on fera une espèce de liturgie qui s'enracinera jusque dans la géologie de cette Jérusalem que des collines entourent. On célébrera les premières vêpres là-bas sur la bordure occidentale, pendant que le soleil de l'après-midi illumine la ville. On chantera les lodes là-bas depuis le mont des Oliviers, alors de Thiers on pataugera dans le canal Ézéchias, vers la petite source de Siloé. Et puis alors, ici, on a l'habitude de faire un office de lecture. Et on termine, ici on met le point final. Et encore une fois, il n'y a pas dans le monde entier, quand on a une culture biblique, de lieu qui soit plus riche de beauté signifiante. Et dans la tradition juive, alors on dit que la Terre Sainte est au centre du monde, que Jérusalem est au centre de la Terre Sainte, que le Temple est au centre de Jérusalem, et que la pierre de fondation, Even Hashtia, est au centre du centre du centre de tout. Et pour nous chrétiens, c'est là que lorsque le Christ meurt sur la croix, le voile se déchire. Vous connaissez tous l'insistance de ce thème du voile déchiré dans les évangiles synoptiques et puis aussi dans l'épître aux Hébreux. On nous explique que le véritable grand prêtre, dont tous les prêtres de l'ancienne alliance n'étaient que la figure, une fois pour toutes, on insiste beaucoup sur cette Ephapax, une fois pour toutes, est entré dans le véritable Saint des Saints, non plus d'un temple fait de main d'homme, mais dans la demeure même de Dieu, non plus avec le sang des boucs et toute cette boucherie sacrée qui nous est décrite dans les livres de l'Ancien Testament, mais avec son propre sang, et qu'il a opéré la rédemption, pas radicale, non pas la purification simplement de quelques descendants d'Abraham selon la chair, mais la purification radicale de l'humanité à travers le temps et l'espace. Il a purifié nos consciences des œuvres mortes pour faire de toute notre vie une liturgie à la gloire de Dieu. Alors ce thème du voile déchiré une fois pour toutes. Et ce qui est important pour nous chrétiens, disons-le bien, hein, c'est pas tellement les pèlerinages au fond. C'est pas une obligation pour un chrétien de venir en pèlerinage en Terre Sainte, hein, comme ça l'est pour l'islam d'aller à la Mecque. Mais on peut dire que les sacrements de la Nouvelle Alliance véhiculent à travers le temps et l'espace la réalité même de ce qu'ils signifient. Quand on célèbre l'Eucharistie, que ce soit au Japon, au pôle Nord, au pôle Sud ou à Trifouille-les-Oies, celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Ce qui s'est passé une fois pour toutes, lorsque le voile s'est déchiré, est rendu présent de présence réelle à travers le temps et l'espace par les sacrements de la Nouvelle Alliance. Alors il y a une question que tous les chrétiens peuvent se poser. Pourquoi venir en pèlerinage? Alors là, on va en faire l'expérience. C'est que si le Nouveau Testament accomplit l'Ancien Testament, eh bien l'Ancien Testament, et l'Église a toujours maintenu ça mordicus contre toutes les hérésies à travers le temps, que le Nouveau Testament ne dégageait sa signification qu'au terme de l'Ancien Testament. Comme l'accord final d'une symphonie, c'est pas parce que l'accord final accomplit la symphonie qu'on va plus écouter que l'accord final. Et on comprend de fait le Nouveau Testament, toute la tradition de l'Église est là pour le dire, que si on s'est mis avec docilité à l'école de l'Ancien Testament. On a affaire à un Dieu vivant qui nous prend tel que nous sommes là où nous en sommes, et alors nous sommes tous récupérés par Dieu tel que nous sommes là où nous en sommes, et il faut bien le dire, nous sommes chrétiens, il nous reste à le devenir. Et alors nous sommes rejoints par Dieu souvent au niveau de l'Ancien Testament parce que nous sommes tous anachroniques par rapport au Nouveau Testament. Et on a besoin de trouver des compagnons de route, comme David, comme Jacob, comme les personnages de l'Ancien Testament. Relisez l'Épître aux Hébreux, Gédéon, Barak, Jephthé, Samson, pas tout ça. Ce sont des compagnons de route dans notre marche vers la cité de Dieu, au solide fondement dont Dieu est l'architecte et le fondateur. Alors cette idée de pédagogie, on va la retrouver tout le temps. Tout est fait, tout reste à faire. Alors on a besoin d'être interpellé par Dieu, tel que nous. Et je crois que ce qui fait l'unité des groupes, voyez-vous, c'est ça. C'est qu'il y a une grande diversité de gens. Il y en a qui sont très cultivés, mais qui ont une culture biblique qui est restée à l'état enfantin, pour ne pas dire infantile. Il y en a d'autres qui n'ont aucune culture du tout. Il y en a d'autres, ils viennent comme ça, pas très motivés quand même. Mais ils sont tous interpellés par Dieu, qui parle d'une infinité de langages tout au long de l'Ancien Testament. Chacun est interpellé tel qu'il est, là où il en est. Et tout le monde se met en marche alors vers cette Jérusalem. Ne me demandez pas de résoudre le problème de la continuité qui est entre cette Jérusalem qui est là, avec tous ces cimetières, symbolise une attente de quelque chose qui ne peut que venir d'en haut, et puis le problème de la Jérusalem qui descendra du ciel, paraît comme une fiancée pour son époux, que nous décrit l'Apocalypse, qui est construite de pierres précieuses. Tout ce que je peux vous dire, c'est que les promesses de Dieu s'accomplissent toujours, premièrement, mais deuxièmement, elles ne s'accomplissent jamais comme on pense, jamais comme les mieux préparés à les recevoir s'attendent. C'est seulement rétrospectivement qu'on verra comment tout ça s'accomplit. Mais il faut faire à Dieu la politesse de connaître au moins les textes de ces prophéties-là qui s'accompliront un jour d'une façon qui dépasse tout ce que nous pouvons espérer. Le lieu que Dieu a choisi pour y faire habiter son nom. Et voyez, on reviendra là-dessus, mais regardez, Jérusalem n'a rien pour réussir. Elle est en dehors des routes, elle est déjà dans le désert, il y a un petit point d'eau là-bas, la source de Giron, mais presque rien. Elle est déjà en pente vers la mer morte qu'on aperçoit là-bas. Les ouadis qui descendent vers la mer morte, là, l'érosion est très forte. Alors il y a eu un phénomène de captation de Cédron, puis de ses affluents, la Gienne et puis le Tyropéon, là, sur les ouadis qui descendent vers la Méditerranée, là, le Naral-Sorek en gros. Et alors s'est formée cette cuvette. La ligne de partage des eaux primitives, c'était ce qu'on voit à l'horizon maintenant, là-bas, le mont Scopus, le mont des Oliviers, et puis alors, cette grande échancrure, et puis le mont de l'ONU dans lequel nous sommes. Alors, dans ce nombril du monde, cette cuvette qui n'a rien pour réussir, elle se développe de par sa signification. Si on était marxiste, on dirait tout y est superstructure. Voyez. Mais alors, elle prend une signification telle que actuellement, plus que jamais, l'attention du monde est comme focalisée sur Jérusalem. Pourquoi ? Ce serait peut-être bon que les chrétiens se demandent pourquoi, quelle est la signification de Jérusalem pour eux. Est-ce que c'est simplement les lieux saints, tous les trous dans lesquels nous nous faisons descendre pour nous expliquer souvent que c'est pas là que ça s'est passé? Ou bien est-ce qu'on ne pourrait pas revaloriser Jérusalem comme lieu saint au singulier pour nous, dans la perspective chrétienne? Remonter aussi loin que possible dans la mémoire, et puis peut-être par le fait même prendre un élan capable de faire sortir de toutes les impasses dans lesquelles les idéologies et les politiques prétendent nous emprisonner actuellement au sujet de cette ville à la destinée mystérieuse.